Radio Okapi. Grande interview.
Célébration le 31 octobre dernier du 19e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui promeut la participation de la femme et du genre dans le monde professionnel, mais aussi la paix et la sécurité dans le monde. En République démocratique du Congo, le ministère du genre, enfants et familles a publié depuis l'année dernière un plan d'action national de la mise en œuvre de cette résolution sur la paix, les femmes et la sécurité, deuxième génération 2019-2022. Quelle évaluation faire de la participation de la femme dans les différentes institutions politiques du pays mises en place après les élections de décembre 2018? Grande interview reçoit dans ce numéro Madame Julienne Lusenge, une personnalité africaine et congolaise connue pour son engagement envers les femmes victimes de violences, notamment sexuelles, dans le Nord Kivu. Produite avec le concours de Kéline Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Grande interview, c'est parti. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, bienvenue à ce nouveau numéro de Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro Madame Julienne Lusenge, défenseur des droits humains en République démocratique du Congo. Madame Julienne Lusenge, bonjour.
Bonjour.
Avant toute analyse, votre portrait avec Kéline Kouté.
Portrait.
Julienne Lusenge, défenseur des droits humains de la République démocratique du Congo. Son action en faveur des droits des femmes et contre l'impunité des violences sexuelles est reconnue internationalement. Elle a cofondé et préside l'Association pour la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Julienne Lusenge agit en particulier dans la région du Nord Kivu, à Beni, où de nombreuses femmes sont victimes des violences sexuelles. Elle leur propose notamment des soins médicaux, un accompagnement à la réinsertion et une aide juridique. Par ailleurs, Julienne Lusenge a pris part à de nombreuses actions pour la reconnaissance du rôle des femmes dans le processus de sortie des crises et de consolidation de la paix, notamment au travers de la résolution 1325 des Nations Unies. Pour son action, Julienne Lusenge a reçu le prix des droits de l'homme de l'ambassade de France en RDC en 2012 et a été faite chevalier de la Légion d'honneur de la République française en 2013.
Alors, Madame Julienne Lusenge, quelle évaluation faites-vous de la mise en œuvre de la résolution 1325 en RDC, 19 ans maintenant, depuis son adoption par le Conseil de sécurité?
Oui, bonjour Michel, encore une fois. En fait, la résolution 1325, c'est une résolution qui a donné beaucoup d'espoir aux femmes de toutes les nations, aux femmes du monde entier. Je suis allée au mois de, en octobre 2017, au Conseil de sécurité, faire la même chose, faire l'évaluation de la mise en œuvre de la résolution 1325. Et j'ai dit clairement aux membres du Conseil de sécurité que la résolution nous a donné l'espoir, mais il n'y a pas la mise en œuvre. La mise en œuvre est vraiment mitigée. Il y a des pays qui ont avancé avec la mise en œuvre de la résolution 1325. Mais dans notre pays, en RDC, la résolution est là, mais il n'y a pas d'application. Parce que même certaines autorités ne connaissent pas cette résolution. Nos députés, certains députés ne connaissent pas la résolution. Quand vous leur parlez de la résolution 1325, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Et donc, je me dis, les gens qui nous dirigent, comme ils ne connaissent pas la résolution 1325, comment ils vont mettre en pratique? Il y en a qui n'ont jamais lu même cette résolution. Si nous allons dans les communes, même au niveau des provinces, même au niveau national, certains de nos dirigeants n'ont jamais cherché à lire et à comprendre que dit cette résolution. Et comme ça, ils ne peuvent pas s'employer à mettre en œuvre cette résolution. Vous voyez, si vous regardez seulement la façon dont le pays est géré, les femmes luttent pour qu'il y ait la paix, le développement, pour participer. Parce que cette résolution dit quoi? Il faut que les femmes participent à la gestion du pays. Il faut que les femmes participent dans les négociations de paix. Il faut qu'il y ait la sécurité pour les femmes. Mais malheureusement, tout cela n'arrive pas dans notre pays. Vous savez, plusieurs années maintenant, je ne sais même pas si on peut compter encore des années, on ne sait même plus combien d'années nous sommes dans la guerre. Et les gens qui payent ces prix, ce sont les femmes et les enfants. Et donc, la résolution 1325 n'est pas vraiment mise en œuvre. Il y a notre plan d'action national qui est là, qui est toujours retouché, qui est toujours rectifié, mais ce n'est pas vraiment mis en œuvre parce que le gouvernement lui-même n'aimait pas les moyens pour que le ministère du genre puisse mettre en action vraiment le plan national. Ce sont les ONG qui essayent, tant mieux que mal, de mettre des activités, de réaliser ce qui est demandé dans la résolution 1325. Les femmes elles-mêmes se battent chaque jour pour participer. Quand vous regardez, quand on compose les délégations au niveau national, vous verrez qu'il y a toujours des hommes qui vont dans les délégations. S'il y a des missions qui doivent aller, je ne sais pas pour quelle mission de paix, au lieu de mettre 50 femmes, 50 hommes, ce sont les hommes qui vont. Ils vont peut-être mettre une femme ou deux, mais le reste, ce sont des hommes. Et même quand il faut faire les nominations, nous avons vu, malgré les promesses du président de la République, malgré les promesses du premier ministre, les chefs des partis politiques n'ont pas voulu aligner les femmes d'une façon paritaire. On a plus des hommes que des femmes au niveau du gouvernement. Et si nous regardons au niveau du Parlement, c'est la même chose. Bien que les femmes se sont engagées dans les élections, les femmes se sont battues pour aller participer à la campagne, elles sont actives dans les partis politiques, mais on ne les aligne pas. Donc il y a un problème de mise en œuvre de la résolution 1325 en RDC. Et ça aussi, ce n'est pas seulement en RDC, il y a beaucoup de pays, et même les Nations Unies. Les Nations Unies qui devraient faire l'exemple. Là aussi, nous trouvons qu'il y a parfois des difficultés de mise en œuvre de cette résolution. ONU Femmes peine pour mobiliser les ressources. Et pourtant, on devrait mettre suffisamment de moyens pour que ONU Femmes puisse travailler et accompagner l'État congolais à mettre en œuvre son plan national, mais aussi accompagner les ONG nationales, les groupes de femmes, à réaliser ce qu'il faut faire pour mettre vraiment en œuvre la résolution 1325. Malheureusement, on n'y arrive pas. Donc, il y a un gap. Et je pense qu'il faudrait que les Nations Unies et tous les États membres puissent se réveiller. Le Congo doit se réveiller. Il suffit pas seulement de donner des promesses, de faire des déclarations de bonne foi. Toujours nous attendons nos autorités. Plusieurs fois, le président, l'ancien président nous a promis plusieurs fois, mais on n'a pas vu vraiment une action concrète. Mais heureusement, avec les nominations actuelles, il a fait un bon choix pour nous donner la présidente de l'Assemblée nationale. Et donc là, nous encourageons, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les choses se normalisent.
Nous allons y arriver, madame, mais tout de même, vous l'avez reconnu, que le ministère du genre, enfants et familles a rendu public l'an dernier un plan d'action national de la mise en œuvre de cette résolution sur les femmes, la paix et la sécurité. Un plan d'action qui devrait être exécuté de 2019 à 2022. N'est-ce pas là une preuve d'appropriation nationale de cette résolution?
Oui, Michel. Il ne suffit pas d'avoir un plan. Le plan, c'est sur papier.
Ouais.
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les actions sur le terrain.
Ouais.
Il faut que... Ce n'est pas le premier plan que le ministère du genre réalise. On a déjà retouché le plan plusieurs fois. Donc, pour nous, maintenant, il faut... là, on est à fin 2019. Est-ce que les actions ont commencé? Est-ce que le gouvernement a mis les moyens pour que le ministère du genre puisse commencer maintenant à réaliser les actions qui sont dans le plan? Donc c'est ça le problème. Il suffit pas d'avoir les papiers, les idées sur papier. Il faut avoir les idées sur papier et les actions concrètes sur terrain. Et c'est là que nous allons dire, OK, nous sommes en marche pour réaliser la résolution 1325.
Et qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement? Est-ce que votre élite se limite au fait qu'on doit faire participer les femmes dans les institutions du pays, ou c'est vraiment une vision globale du développement de la femme, notamment dans l'entrepreneuriat privé? Qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement pour dire, par exemple, que oui, la résolution 1325 a des avancées concrètes dans notre pays?
Oui, Michel, nous sommes des citoyennes de ce pays.
Ouais.
Et donc, nous avons les mêmes droits que vous, les hommes. Et donc, la résolution nous donne le droit de participer dans les négociations de paix,
ouais,
le droit de participer dans la gestion de la chose publique. Donc, nous voulons voir des femmes ministres d'une façon paritaire, comme dit notre constitution. Nous voulons voir les femmes dans l'administration d'une façon paritaire, comme dit la constitution. Nous voulons voir les femmes dans les entreprises. Nous voulons voir les femmes dans l'enseignement, parmi les officiers militaires, à tous les niveaux. Nous voulons voir les femmes participer correctement et d'une façon égalitaire avec les hommes. C'est la justice sociale. Oui. C'est le droit de chaque citoyen. Nous voulons voir les femmes participer et sécuriser dans les endroits où elles font leur travail, même informel. Nous voulons être des agents de changement. Nous sommes déjà des agents de changement et nous voulons que ce travail soit respecté, soit reconnu. Vous savez, ce pays se maintient par l'apport des femmes. C'est parce que les femmes travaillent dur. À 4h du matin et à 5h du matin, vous les voyez avec des bassins de pain sur la tête pour aller chercher l'argent, pour faire nourrir la famille, pour faire étudier ses enfants qui deviennent des ministres, après qu'ils disent que les femmes sont incapables. S'il y a des nominations des ambassadeurs, les femmes doivent être nommées aussi au même titre que les hommes. C'est ça que nous voulons. Nous félicitons déjà pour le gouvernement actuel parce que on a donné des postes que les hommes croyaient que c'est seulement eux qui devaient les gérer. On les a donnés aux femmes. Et nous voulons que ça soit plus. Le nombre de femmes doivent augmenter dans la gestion du pays.
Alors, madame, comment expliquez-vous le fait que les femmes qui sont majoritaires en République démocratique du Congo n'aient pas réussi à faire élire ne fût-ce que 50% des femmes au Parlement? Parce que le vrai problème, il se pose. Visiblement, les femmes elles-mêmes ne s'impliquent pas dans le développement de la femme.
Non, est-ce que vous avez les indicateurs pour dire que les femmes ne s'impliquent pas? Les femmes s'impliquent. Michel.
Mais la question se pose, pourquoi les femmes n'ont pas élu les femmes?
Le problème de notre pays réside dans les lois.
Ouais.
Il faut qu'on arrive à changer ces lois, ces textes, que ça soit impersonnel. Qu'on arrête de prendre ce pays en otage par les partis politiques. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à gérer ce pays d'une façon démocratique. On est pris en otage par les partis politiques. Les lois ont été taillées sur mesure. Et ça bloque les femmes. Beaucoup de femmes ne sont pas chefs de partis politiques. Oui. Elles vont participer dans les partis politiques, mais on ne les aligne pas. Oui. Et même si les autres femmes veulent voter les femmes, vous avez vu ce qui s'est passé avec les dernières élections. Donc si les élections s'étaient déroulées normalement, les femmes étaient engagées à voter les autres femmes.
Oui.
Mais comme il y a eu ce qu'il y a eu, on a eu des gens qui ne devraient pas être au Parlement qui sont là. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes n'ont pas été élues, n'ont pas été... disons, déclaré élu par les gens qui font la déclaration. Donc, c'est ça la difficulté. Nous savons aussi qu'il y a des femmes qui sont influencées par leur mari,
oui,
pour ne pas voter les autres femmes. Il y a aussi des femmes, par nature, qui ne veulent pas simplement, par jalousie ou par haine ou par je ne sais pas quoi, qui n'arrivent pas à voter les autres. Et ça, nous sommes en train d'y travailler. Nous demandons que les femmes dépassent ce stade-là. Nous devons travailler pour toutes les femmes pour qu'elles avancent.
Certains chefs d'entreprise avancent aussi comme argument. Les femmes ne sont pas très compétentes, pas toutes, hein. Certaines se distinguent, mais la majorité se réfugie dans cette lutte des parités, mais tout en ne prenant pas en compte le fait que la compétence prime dans le monde professionnel.
Non, on ne va pas. Si je voudrais bien les voir, oui, et discuter avec eux, parce que je sais. Il y a des hommes incompétents qui occupent des postes sans rien faire. Mais on n'en parle pas. Mais l'incompétence des femmes, on brandit et on généralise toutes les femmes. Non. Comme il y a des hommes incompétents, il y a aussi des femmes incompétentes. Mais il y a des femmes compétentes. Il y a des femmes qui savent ce qu'elles font. Il y a des femmes qui ont distingué.
Oui.
Plus que les hommes dans les universités, dans les écoles secondaires. Mais ça, on ne veut pas utiliser cette tête-là, bien passante, pour mettre là où il faut, pour faire avancer le travail. Et donc, je me dis, c'est pas un argument. Il y a des faiblesses, il y a des hommes qui ont aussi leurs faiblesses, les femmes aussi ont leurs faiblesses, mais je dis, c'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes vraiment qui sont capables de faire quelque chose et qui les font. Même les femmes qui n'ont pas étudié. Nous les voyons dans les villages, qui mènent le leadership dans les villages pour changer les choses. Donc, on n'a pas besoin de dire il faut seulement l'université, il faut ceci, cela. Non, on voit les capacités de la femme et la façon de penser, la façon d'argumenter, la façon de leadership que la femme est en train de montrer dans le village.
Vous êtes à l'écoute de grandes interviews sur Radio Okapi. Cette émission reçoit Madame Julienne Lusenge. Avec elle, nous parlons de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC. Quelle évaluation et quelle perspective? Alors Madame, vous êtes très engagée dans la lutte contre les violences faites à la femme dans les zones de conflit. Quel état des lieux faites-vous de la situation des femmes et des enfants dans ces zones?
Oui, la situation n'a pas beaucoup changé. La situation n'a pas changé. Ça s'empire davantage. Là, je viens de Béni. J'étais là pour un projet qu'on va implémenter. Je suis allée visiter l'hôpital d'Oicha. Et le même jour, donc le lundi, je suis arrivée le lundi soir. Et le même lundi soir, on a tué. Et il y a des femmes qui ont été tuées. Il y a même une femme qui a été égorgée et on a laissé le bébé de moins d'un mois à côté d'elle. Donc, la situation s'empire. Les groupes armés continuent à être actifs. Même à Minembwe, ce qui se passe à Minembwe actuellement, vous voyez que les violences continuent. Et ce sont les femmes qui payent le prix.
Tout à fait.
Ce sont les femmes qui payent le prix. Il y a même à Rutshuru, c'est chaque jour que les femmes envoient des messages. On a tué, on a violé, on a kidnappé. À Beni, c'est la même chose. À Nitouri, les choses essaient de se calmer, mais il y a encore des poches où les gens sont encore tués. Quand on va dans les camps de déplacés, c'est la tristesse totale. Vous voyez des gens dormir par terre, à même le sol. Des femmes de troisième âge à même le sol, sans rien du tout. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et que nos politiciens doivent arrêter d'utiliser les conflits, les violences pour croire qu'ils vont s'enrichir, pour croire que c'est ça le moyen pour accéder au poste. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on travaille pour la communauté, qu'on réfléchisse sur la communauté. Comment construire la paix? Et là, nous allons gagner tous. Il faut qu'on arrête les conflits. La situation se détériore davantage. Par exemple, notre centre de Bounia, notre centre médical, reçoit maintenant actuellement beaucoup de femmes déplacées qui ont été violées, qui ont été kidnappées, qui ont été détenues, esclaves sexuelles, pendant des mois et des mois, qui nous arrivent avec des enfants. La situation est pire. Il y a même une femme avec sa fille, elles ont été violées. Et là, la fille et la mère sont tombées enceintes. Et avec ce groupe-là, maintenant la maman dit, comment nous allons, ces enfants-là, comment nous allons les regarder, comment nous allons on va les appeler à quel nom? Parce qu'on ne sait même pas qui est le père dans le groupe, parce qu'on a été violés collectivement. Donc, il y a des situations atroces, des situations pénibles, des situations traumatisantes qui se passent dans notre pays. Il faut que les gouvernants puissent vraiment se réveiller et faire des actions concrètes pour la restauration de la paix. Il faut que les leaders de chaque communauté puisse travailler pour la paix, que de cotiser de l'argent pour acheter les armes et donner aux groupes armés, que de faire des réunions nocturnes pour monter les communautés entre elles. C'est assez, on a assez détruit ce pays. Il faut qu'on travaille pour la paix. Et nous, les femmes, je vais vous dire que les femmes s'emploient chaque jour pour la restauration de la paix. Je vais vous donner l'exemple des femmes de Rutshuru, les femmes des filles qui travaillaient sur la paix. Maintenant, elles sont tout simplement débordées avec ce qui se passe à Minembwe. Donc, les femmes veulent la paix. Mais les hommes, arrêtez de faire la guerre. Parce que la guerre ne va pas nous amener à faire le développement. Nous sommes en train d'ouvrir les marchés pour d'autres personnes. Je vais répéter ici ce que j'ai déjà dit ici une fois à Radio Okapi. Il y a un blanc qui m'avait dit à Genève, dites à vos frères d'arrêter de faire des guerres inutiles. Parce qu'ils nous donnent, nous, le travail et nous venons là-bas, nous gagnons beaucoup d'argent, nous revenons chez nous pour construire nos maisons et pour nous installer à l'aise. Entre-temps, vous restez toujours pauvres. Donc, il est temps qu'on puisse réfléchir. Pourquoi faire de mal à l'autre? Pourquoi mettre la population dans la souffrance? Il est plus que temps qu'on puisse arrêter.
Alors, il y a quelques années, la RDC était considérée comme capitale du viol. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Est-ce que la situation a quand même évolué? Justement,
oui,
dans
la situation a évolué jusqu'à 2016.
Oui.
Jusqu'à 2016, il y a eu accalmie avec la présence de Madame Mabunda au bureau de la représentante spéciale du chef de l'État. Là, ça a diminué. Mais à partir de 2017, la situation a commencé encore à remonter. parce que les groupes armés, ils ont commencé encore à faire beaucoup, il y a eu beaucoup de guerres et ça continue à être le même le cas. Et aussi du côté militaire, il y a aussi des cas de violence, parce que quand Madame Amunda était là, il a fait un travail fantastique auprès de du ministère de défense pour que le ministère puisse s'employer à mettre fin aux violences sexuelles dans le rang de notre armée. Et il y a des officiers qui ont été condamnés. Il y a des éléments de notre armée qui ont été condamnés. Et donc, pour le moment, la justice a comme baissé les bras. On ne sait pas pourquoi. Parce que des cas de viol qui traînent jusqu'à 3 ans sans être jugés, 2 ans sans être jugés, c'est trop grave. Donc, il y a eu l'impunité qui continue encore à alimenter ces cas de violence sexuelle qui continuent. L'insécurité dans les zones, ça fait aussi que ça continue. Et donc, pour le moment, vraiment la situation est encore en hausse et on risque encore de ramener notre pays sur le rang des capitales de viol. Parce que là, on avait enlevé la RDC sur la liste des pays qui sont concernés par le fléau. On avait dit, oui, il y a amélioration. Mais là, on commence encore à remonter. Donc, je demanderai à Madame la représentante du chef de l'État, Madame Chantal, de faire encore plus d'efforts pour continuer à renforcer son bureau et de travailler vraiment de près avec la justice et avec le ministère de la Défense pour travailler encore sur ces questions-là pour qu'on arrive vraiment à réduire. Parce que je vous ai dit tantôt, c'est le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Nous recevions jusqu'à 70 cas par mois. Donc, c'est trop.
Puisque vous parlez de l'impunité, comment avez-vous accueilli la nouvelle de la condamnation de Bosco Ntaganda à 30 ans de prison pour crime contre l'humanité dans le nord-est du pays?
Pour nous, c'est un soulagement.
Oui.
Bosco Ntaganda, c'est un terminator. J'ai fait 26 ans à l'Ituri. Donc, tout ce qui s'est passé à l'Ituri, j'étais là. Et je suis même victime de tout ce qui s'est passé parce que j'ai été chassée moi-même par les groupes armés. Et donc, c'est un soulagement pour les victimes et pour toute la population de l'Ituri et même du Nord Kivu, où il a commis beaucoup de crimes. Il a commis beaucoup de crimes. Et pour une fois, je pense que la CPI s'est rachetée de toutes les bévures des autres procès.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro Madame Julienne Lusenge, activiste des droits de l'homme et spécialisée dans la défense des droits des femmes. Aujourd'hui, Madame, nous avons vu une femme à la tête d'une grande institution de ce pays à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas là une avancée significative dans votre combat?
Oui, vraiment, c'est une avancée significative pour la RDC d'abord, par rapport à ses engagements au niveau international,
oui,
et pour les femmes congolaises qui luttent tout le temps pour la parité, pour faire avancer leurs droits. Donc pour nous, c'est vraiment un honneur que Mme Mabunda occupe ce poste et toutes les autres femmes qui occupent des postes ministériels dans notre nouveau gouvernement. Et donc pour nous, la présence de Mme Mabunda nous a encouragés et directement nous l'avons approchée en tant que femme pour nous dire, voilà notre agenda. Nous avons des textes de loi que nous voulons vraiment que ça puisse passer, que ça puisse être révisé pour donner la chance à toutes les femmes d'avancer. Il y a le texte pour la réparation pour les victimes de violences sexuelles.
Oui.
Il y a la proposition de loi pour pour lutter contre les violences conjugales. Il y a aussi d'autres textes qui concernent la loi électorale, qui concernent les femmes, que nous voulons vraiment qu'elles, comme elle est là, qu'elle fasse avancer ces textes-là d'une façon à aider les droits des femmes à avancer. Et donc, c'est un grand plaisir et une grande satisfaction pour nous.
Mais en même temps, vous exprimez certaines craintes sur cette progression. Vous pensez qu'il risque d'y avoir une régression. La preuve, vous avez initié une pétition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, en fait, les hommes congolais, dans leur mental, pensent que quand une femme arrive à un tel poste, il va le dominer, il va ceci, il va faire cela. Et les hommes, nous avons appris que les hommes sont en train d'initier une pétition en coulisses pour déstabiliser Madame Mabunda. Et c'est ça que toutes les femmes, au niveau de toutes les provinces, les femmes se sont levées pour dire « Ne touchez pas à Madame Mabunda, ne touchez pas à la présidente de l'Assemblée nationale. » Parce que c'est notre lutte et c'est un poste qui est donné aux femmes congolaises après plusieurs années de lutte. Pour nous, il faut que les hommes arrêtent de faire des coups bas. Il faut que les hommes reconnaissent leurs erreurs. Ils savent ce qu'ils ont tout planté, tout ce qu'ils ont fait pour les années qui sont passées. Et ce n'est pas Madame Mabunda qui va payer le prix. Madame Mabunda est là pour que la démocratie puisse revenir au Parlement. Pour que nous, le peuple, nous puissions venir au Parlement, rencontrer nos députés, poser des questions à nos députés. Ça n'a jamais existé, mais aujourd'hui, nous pouvons venir, nous pouvons demander l'audience, nous pouvons la rencontrer, nous pouvons venir rencontrer nos députés, parler avec nos députés, présenter nos préoccupations aux députés. Et ça, c'est ça que nous voulons avec Madame Mabunda. Donc nous ne voulons pas que les gens commencent à lui mettre des bateaux dans la roue pour qu'elle puisse tomber. Nous n'allons pas accepter. C'est comme ça que les femmes de toutes les provinces ont initié la pétition. C'est une pétition populaire de la population congolaise pour dire non, ne touchez pas à Madame Mabunda. Qu'on la laisse faire le travail, qu'on la laisse développer notre Parlement d'une façon démocratique. C'est comme ça que nous voulons que ça change.
En même temps, certaines critiques fusent un peu de tous les sens, que Madame Mabunda n'accorde pas suffisamment de paroles aux parlementaires, ce qui est perçu comme un certain étouffement de la démocratie. Et ne pensez-vous pas que le fait d'amener cette problématique sur le terrain d'une lutte entre les hommes et les femmes serait en quelque sorte fragiliser un peu votre combat, qui est un combat des valeurs?
Non, c'est pas seulement les femmes qui sont en train de signer la pétition.
Oui.
Notre pétition est signée aussi par les hommes. Il y a des hommes qui disent non, ne touchez pas à Madame Mabunda. Il y a des hommes qui ne reconnaissent pas ces failles qu'on est en train de mettre. Tu sais, quand on veut accuser son chien, on l'accuse de rage.
Oui.
Quand ils étaient là avant, le Parlement qui vient de finir son mandat, est-ce qu'ils avaient le temps de parler? Qui parlait dans ce Parlement? Pourquoi aujourd'hui ils vont dire, si c'est vrai, je ne suis pas parlementaire,
oui,
si c'est vrai que c'est ça, ils ont le règlement, ils doivent aller réclamer, pas chercher à faire, qu'on laisse les institutions avancer. Parce que nous voulons voir ce changement. Le peuple espère vraiment au changement. Nous voulons sortir de cette situation où nous sommes. C'est la honte pour nous, voir des populations pauvres jusque-là. Comment on vit dans la saleté à Kinshasa. Nous voulons sortir de ça. Nous voulons avoir des dirigeants qui réfléchissent sur l'avenir du pays. Qu'on laisse le temps aux gens d'avancer, que de nous ramener toujours dans les histoires des partis politiques, dans les histoires des intérêts égoïstes. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Qu'on laisse Madame Mabunda avancer avec le travail, qu'on laisse le Premier ministre faire le travail, qu'on laisse le gouvernement avancer avec le travail, qu'il mette en œuvre le programme qui est déjà là. Que de recommencer. Ils vont être là, ils vont aussi rien faire. C'est pour l'égoïsme, tout simplement. Arrêtons l'égoïsme, travaillons pour la communauté, travaillons pour tous les Congolais pour faire avancer le Congo.
Madame Julienne Lusenge, je vous remercie.
Je vous remercie, Michel.
Fin de grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite avec le concours de Kellyn Koudé sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Michel Kipindangoy vous l'a préparé et présenté. Merci de rester fidèle à Radio Okapi. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Merci et au revoir.